Invitation entendue. Et oui, il y aura une suite. Bonjour, je vous remercie tous les deux pour vos interventions et pour la passion qui vous habite. Je vais faire très court parce que dans le fond, on a beaucoup moins de temps que prévu. Une question. C'est vrai que la médecine et la psychanalyse se sont un peu fréquentées, qu'il y a eu toute une période, je dirais, de réductionnisme hein, par rapport à la question des autismes du côté des psychanalystes des années 70, puis une période de réductionnisme organique hein, du côté de tout ce qui était recherche neurologique, neurodéveloppementale, biologique, et que peut-être maintenant les choses peuvent s'ouvrir d'une manière un peu plus raisonnable, hein, avec effectivement cette dimension, ces doubles dimensions, hein, que dans le fond, même s'il y a une détermination génétique, ça n'empêche pas que le sujet et sa famille jouent ses cartes, et que chaque sujet joue ses cartes de manière différente, hein, et que c'est très important. La question... Là où je voudrais recentrer les choses, c'est dans le fond sur la toute fin de votre intervention, quand vous dites 35% des cas de pathologie d'allure autistique. De présentation autistique. Moi je dirais presque de manière provocatrice que je ne suis pas d'accord. Ces 35% des cas de syndrome autistique ont un sous-bassement génétique. Et je dis ça parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est que les autismes? C'est un trouble d'accès le plus souvent au langage. C'est un trouble d'accès au langage qui a des répercussions sur la manière dont le corps va être investi, significantisé, disons-nous, dans notre jargon, etc. Qui va avoir des effets sur la nutrition, sur la relation à l'autre, etc., etc. Mais dans le fond, on se moque bien de savoir quelle est la cause. Il y a une cause qui fait que cet accès au langage est impossible à un moment donné. Pourquoi il n'y a pas d'accès au symbolique? Est-ce que c'est une cause psychogénétique? La dépression de maman pendant la grossesse, est-ce que c'est une cause génétique? Est-ce que c'est une cause métabolique, etc., etc. Je veux dire, dans le fond, le résultat est le même. On a à la fin un syndrome autistique et le plus souvent... Au niveau de la modalité de traitement, il n'y a pas tellement de différence patente. Hein. C'est là où j'aimerais interroger. Moi, j'ai vu un enfant qui avait une trisomie 4, ce qui est quand même une rareté. Hein.
Il y a un diagnostic.
Oui, il y avait un diagnostic.
C'est important, ça.
Il y avait un diagnostic, mais il présentait tous les signes, je dirais, du syndrome autistique typique. Et le mode d'abord, ça a été effectivement un mode d'abord psychomotricité, orthophonie, psychothérapie, prise en charge pluri-hebdomadaire, etc., etc. Et c'est un enfant maintenant qui va à l'école, qui parle, qui fait du cours et qui a des stratégies tout à fait intéressantes. Voilà. Donc on va interroger un petit peu sur cette.
Je réponds très brièvement à cela, et puis je pense qu'après, peut-être d'autres. Très rapidement. Sur votre tout premier point, sur la rétraction des protagonistes chacun dans le domaine, je voulais vous dire que j'ai l'impression qu'une affection sans marqueur biologique fait douter de son organicité. Et on a passé pendant des années, sans aucune preuve de l'organicité des syndromes autistiques. Quand vous avez une affection sans marqueur, radiologique ou biologique, on peut légitimement s'interroger sur son origine, éventuellement non organique. Donc ce qu'apporte, ce que je vois comme ce soir, c'est de mettre de la biologie derrière ces troubles psychiques, mais dans une fraction des cas qui n'est pas de 100%. Alors, vous me dites, on s'en moque bien d'avoir la cause. Ce n'est pas ce que disent les parents. Hein. Ils s'en moquent pas du tout, hein, les parents. Donc, vous les interrogez vous-même, mais peut-être que pour vous, et je comprends ce que vous voulez dire en disant ça, mais pour eux, ils ne s'en moquent pas du tout. Et moi non plus, d'ailleurs, parce que je voudrais vous dire un truc, c'est que, avec les 35%, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est des 65% restants? C'est quoi les autres? Comment vous voyez les choses, monsieur Munich? C'est quoi les 65%? Est-ce que c'est que vous êtes votre impuissance diagnostique? Vous devez aller plus loin dans votre travail génomique. Ou est-ce que c'est des causes épigénétiques? Et si oui, lesquelles? C'est-à-dire l'environnement des gènes qui modifierait leur expression. Alors, ce qui est très intéressant, et après, c'est que quand j'ai enlevé le bruit de fond génétique, j'appelle ça le bruit de fond génétique, le fardeau des anomalies que je peux dépister aujourd'hui, il émerge des choses. Béa, c'est très bien de quoi je parle. Il émerge des choses qui nous sautent aux yeux quand on fait la part des choses. La fréquence des syndromes autistiques chez les enfants de mères qui ont bénéficié de procréation médicalement assistée, PMA. Facteur multiplicatif de 2,7. Antirétroviraux. Sida. Cocaïne. Cannabis. Dépakine. Donc il y a un certain nombre de prématurité, éclampsie. Il y a un certain nombre de choses qui nous sautent aux yeux quand on a fait la part de ce que j'étais capable d'identifier. Et là, on approche, parce qu'on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. On approche le scénario épigénétique, et qui est très important pour vous. Et c'est important ce que je vous dis là, parce qu'il y a, une épigénétique liée à des médicaments, et puis après, il y a peut-être de la place pour de l'épigénétique, ni liée à médicaments, ni liée à une anomalie génétique, mais qui serait un vrai sujet d'environnement qui est l'endroit où on doit faire un travail ensemble.
Ça peut être le discours, là.
Comment ?
Ça peut être
tout ce que tu peux imaginer. Mais ce qui m'intéresse, moi, à mon petit niveau, c'est de dire, voilà, maintenant que j'ai fait ma part des 35%, je vais continuer à faire de la meilleure génétique, parce qu'on s'améliore toujours, et puis je vais regarder ce qu'il en reste, les 65%. Et bien, ce qui nous saute aux yeux, et Béatrice, c'est très bien, parce qu'on est surpris de voir qu'on trouve dans certains cas des explications qu'on ne peut pas tester biologiquement, mais qu'on peut tester sur le plan épidémiologique et statistique, c'est-à-dire l'impact de certaines expositions environnementales. Ça, c'est aussi, c'est très intéressant.
Vous avez lancé une grande étude qui a duré dans 20 ans, je crois.
Elle continue.
Et qui continue, sur 508 cas de syndrome cystique.
Oui, oui.
Il y a une chose qui m'a frappé, c'est la prévalence... Le ratio, 4 garçons pour une fille. Alors, quelle explication? C'est ma première question. Deuxième question. Dans les formes familiales d'autisme, je crois que vous chiffrez à peu près à 3%.
Est-ce que je vous envoie mon papier?
Non, oui.
On l'avait envoyé.
3% des cas de formes familiales autistiques. Vous avez déjà partiellement répondu. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de complexité? Apparemment, oui, ça peut être assez chronophage. Et ma troisième question, c'est, vous avez partiellement répondu aussi, à savoir que vous êtes en train de lancer une grande étude, une petite centrique, concernant les facteurs environnementaux pouvant déterminer l'autisme, avec en part, et éventuellement les facteurs psychologiques. Quels sont les axes de recherche et vous allez terminer quand cette étude?
Vous dites la première question.
La première, pourquoi après le ratio 4 garçons pour une fille?
Je ne sais pas. Quand il y a plus de garçons que de filles, en principe, c'est une pathologie liée à X. Puisque les garçons n'ont qu'un seul chromosome X, on s'attendrait à trouver l'explication sur le chromosome X. Mais ce n'est pas vrai. Il y a, dans les 35% autour de l'explication, il n'y a pas. Forcément, une anomalie sur le chromosome X. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a plus de garçons. Je n'en sais rien. La deuxième question sur les 3%, je n'ai pas compris.
C'était les formes familiales de.
Oui. Alors, oui, ça, c'est vachement important. C'est-à-dire que quand on trouve une anomalie génétique, dans la très grande majorité des cas, c'est un accident, comme vous l'a dit Béatrice. Une anomalie génétique non héréditaire, non héritée. Elle est transmissible pour le malade s'il a des enfants. Mais elle va hériter de l'un ou l'autre parent, dans la majorité des cas. Donc c'est des événements qu'on appelle des novos. Quand je dis accident, Béatrice me dit, il ne faut pas dire accident. Elle a raison. Parce que c'est pas bien, c'est pas un bon mot. Je ne sais même pas comment dire. C'est des événements qui sont survenus chez le sujet, dont les parents ne sont pas porteurs. C'est vachement important, parce que quand des parents s'interdisent d'avoir des autres enfants au bénéfice du doute, leur dire, écoutez, j'ai trouvé ce que c'est accidentel, ça soulage le couple et les sœurs, et les frères et sœurs. C'est un effet miracle. Combien on a de frères et sœurs qui ont renoncé, d'abord qui ont fait médecine, qui ont fait infirmière, qui ont fait psy, et qui ont renoncé à vos projets de couple pour ça. Alors, c'est vraiment important. Et dans une fraction qui est faible, mais non nulle des cas, effectivement, ça fait 15% de la cohorte à peu près, de mémoire, il y a une forme génétique d'autisme, soit liée au chromosome X, soit d'hérédité biparentale, donc avec un risque de récidive. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là que c'est vraiment important, c'est pour ces 15%-là, que c'est important de repérer les formes des maladies génétiques avec des signes autistiques. Enfin, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, vous m'avez repris, vous avez bien fait. Mais en tout cas, de repérer les cas où il y a un risque de récidive. Vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce que pour mettre notre âme en paix et notre conscience professionnelle en paix aussi. Donc je crois que pour toutes ces raisons, y compris pour le risque de récidive et de méconnaissance d'une forme récurrente, ça vaut la peine, à un moment ou à un autre, de faire cette démarche. Alors, avant de finir cette intervention courte, là, je voudrais vous dire que, effectivement, on était impuissants, on n'avait pas, jadis, les outils qu'on a aujourd'hui. Puis, il faut bien dire aussi que les neurologues, les neuropédiatres, n'étaient pas très enclins à recevoir ces enfants. Vous aviez le plus grand mal du monde à montrer un enfant autiste à un neuropédiatre. Parce qu'ils n'aiment pas être confrontés à leur impuissance, eux. Moi, je n'ai pas de problème avec mon impuissance. Eux, ils ont des problèmes avec leur impuissance. Et donc, non, mais c'est que s'il n'y a pas de problème avec mon impuissance, c'est que je ne suis pas si impuissant que ça. Et donc, en réalité, les enfants n'étaient pas les bienvenus à l'hôpital. S'ils sont exclus des soins, c'est que peut-être que c'était difficile pour les parents d'amener le môme à l'hôpital, peut-être que les pédopsychiatres, les psychanalystes n'avaient pas très envie de les envoyer, mais peut-être aussi qu'ils n'étaient pas les bienvenus à l'hôpital. Et donc, ce mode d'intervention en binôme, pédopsychiatre, diététicien, et sur site, me paraît opérant, parce qu'il permet de rattraper un certain nombre de balles perdues. Il y a une dame qui veut intervenir.
Oui, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de M. Rampier. Je trouve qu'effectivement, j'insiste sur le fait que nommer va faire aussi, va impacter, va ricocher au niveau de la clinique et des professionnels qui s'occupent du patient, et du petit et de l'enfant. Moi, j'ai eu plusieurs cas dans ma clinique de non-émergence de langage chez des tout-petits que j'ai suivi plusieurs années. Et je peux vous dire qu'il y a eu un déplacement, c'est-à-dire qu'il faut penser peut-être la démarche aussi de la recherche dans un processus dynamique. On est avec des parents qui sont très démunis, c'est un espèce de trou pour eux, ils ne savent pas. Et puis ils reviennent dans le cabinet et même si la réponse n'a pas été, c'est pas un point d'arrêt finalement. Il ne faut pas considérer que, enfin moi je le vis pas comme ça.
Quoi, le diagnostic?
Oui, justement.
C'est un départ.
Justement, ça relance chez eux, ça relance quelque chose. Et moi je le vois à chaque fois. Et ça relance dans le déplacement de positionnement des parents. En fait. Et donc ça peut. Ça redonne une synergie avec les parents, le professionnel et l'enfant. Enfin, moi,
vous avez tout à fait raison, madame. Il y avait des collègues, jadis, ça se dit moins maintenant, qui me disaient à quoi ça sert tout ce que tu fais? À quoi ça sert de stigmatiser l'enfant avec un diagnostic? Et j'ai pas du tout l'impression qu'on stigmatise, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'on clôt un chapitre et qu'on lit, on ouvre un autre chapitre. Et où là, ça bouge. Ça bouge. On met de la dîme. Vous l'avez très très bien dit. Il y a même l'enfant lui-même, il est le premier à écouter ce qui se passe.
Vous avez dit, il ne faut pas trop tôt, il ne faut pas trop tard. Oui. Effectivement, ça, c'est très important. Parce que si on dit trop tôt, le diagnostic, ça ferme. Oui. Et si on le dit trop tard, il y a eu trop de souffrance autour de cette question. Et c'est vrai que la
temporalité de la question génétique est absolument essentielle.
La temporalité, la manière de dire... je crois que ce n'est pas la même manière que vous avez, qu'on a maintenant, ou ce qui a existé il y a 20 ans. Moi, il y a 20 ans, une petite fille qui avait un syndrome de Rett, l'énoncé du diagnostic et la manière dont ça a été dit, ça a été l'arrêt des soins immédiats. tardé la Renaissance à Lyon. Tandis que maintenant, effectivement, le chromosome X fragile, enfin, tout ce qui est dit n'arrête rien au niveau du soin, et au contraire, vient conforter quelque chose, vient tranquilliser quelque chose. Tout à fait d'accord.
On voit, on constate que très souvent, des interventions sont acceptées par les correspondants, les médecins hospitaliers, sous réserve qu'il va y avoir un diagnostic. C'est-à-dire que tant que, et on peut comprendre qu'un anesthésiste n'ait pas envie d'anesthésier, un chirurgien n'ait pas envie d'opérer, quand ils ne savent pas très bien où ils mettent les pieds, entre guillemets. Voyez. Et c'est vrai que très souvent, l'intervention, si évidemment elle n'est pas urgente, peut être retenue en attente du diagnostic. Et donc ils arrivent d'abord par la consultation à l'imagerie, et après il y a ce retour vers la consultation de spécialistes.
C'est extrêmement intéressant ce que dit Béa, parce que la nomination ne dynamise pas seulement l'enfant et la famille, mais les professionnels. Les professionnels commencent à se bouger. Si Munich s'est cassé le tronc pour arriver à la diagnostic, on ne va pas rester comme des cons. Il faut que nous aussi, on fasse des prouesses. Donc, pour une raison que je ne m'explique pas très bien, la nomination dynamise aussi, ce qu'a dit très bien Béatrice, les équipes, pour un projet qui ne va peut-être pas guérir l'enfant. Mais l'enfant, il va pas plus mourir, il va vivre avec une maladie chronique. Bon, c'est pas pareil que l'arrêt des soins. Après tout, le diabète, c'est aussi une maladie chronique. Donc, par conséquent, je suis pas en train de dire que l'autisme est le diabète, mais loin de là. Mais on a l'impression que la nomination mobilise le sujet, les équipes de professionnels de l'établissement, les parents et même les soignants du corps, d'une manière, pour moi, stupéfiante à chaque fois.
Moi, l'expérience par rapport à ce que vous dites, madame, l'expérience que personnellement j'ai dans la consultation, ça s'est passé une fois, c'est-à-dire que la nomination a été un effondrement pas des parents, mais du père. Le père s'est effondré en disant bon, il vivait avec l'idée que les choses pouvaient. Que c'était une jeune fille qui avait 14-15 ans, qui avait un assez gros retard, et il vivait avec cet espoir que. Elle allait rattraper, que ça allait quand même aller, que ça allait marcher, que les nombreuses prises en charge, parce que c'était le cas, ils avaient une école spécialisée, enfin bon, il y avait mis beaucoup de moyens autour de cette jeune fille. Et le diagnostic, et c'est vrai qu'on a été surpris, parce que le diagnostic a provoqué un effondrement de ce père. Mais honnêtement, je crois que c'est la seule fois, je ne suis pas depuis 20 ans, mais c'est la seule fois à laquelle je pense, quand vous mentionnez ça, c'est vrai, et en revanche, dans l'autre sens, la délivrance que représente la nomination et le diagnostic fait que, par exemple, encore hier après-midi en consultation, il y a une femme qui a une maladie neurodégénérative grave, qui s'appelle ataxie Friedreich, qui s'est présentée à la consultation, donc qui vient tous les 6 mois à la consultation, et qui disait pendant la consultation, qui a dit au médecin, et en fait, j'ai comme question de la part de mon fils, comment ça marche les essais, quand vont démarrer les essais cliniques, est-ce que ça va bientôt démarrer, parce que vraiment on attend, etc. Donc, au contraire, nommer c'est important, mais c'est vrai que ça peut aussi générer une frustration, parce qu'en face, il n'y a pas tout de suite un traitement. Et en même temps, c'est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut manœuvrer. Il faut dire au bon moment, nommer sans savoir pour autant tout de suite qu'on va pouvoir soigner, avec pourtant la pression des médecins, des familles qui disent « Ok, c'est-à-dire ça se passe en un quart de seconde. On donne un diagnostic, le médecin donne un diagnostic. Bon, et maintenant on fait quoi ?» Vous voyez, comme s'il y avait une réponse thérapeutique immédiate. Et ce n'est pas le cas. C'est quasiment jamais le cas. Presque jamais. Dans les maladies rares, c'est presque jamais le cas. Enfin, ou très rarement.
Patrick, je vais avoir entendu. Ah oui.
Je vous remercie pour vos interventions. J'ai appris énormément de choses, dont la prévalence des troubles génétiques dans l'autisme est de 35%. Je n'avais pas cette notion en français. Moi, j'ai une notion ancienne qui était quand même nettement inférieure.
Quand on s'en donne les moyens.
Quand on revient, oui, je pense que ça doit dépendre de ça. Et après, je reviens sur le problème du sex ratio, qui lui, par contre, lui, ne bouge pas. Enfin, de les souvenirs que j'ai, on reste toujours le même ratio, il y a 50 ans, on retrouve le même. Donc, par rapport à ce que vous avez développé sur l'épigénétisme, est-ce que, comment vous articulez les facteurs épigénétiques que vous mettez en avant avec ce problème du sexe ratio? Parce que je me dis que si vraiment il y avait un fort pouvoir d'incidence épigénétique, on n'aurait pas ce déséquilibre entre les sexes. C'est une hypothèse. Enfin,
si, vous pouvez faire intervenir des facteurs hormonaux, parce que les hormones modifient la chromatine, c'est-à-dire la gaine des gènes. Qu'est-ce que c'est l'épigénétique? L'épigénétique, c'est comme ce fil-là. Vous avez un fil électrique qui passe dans le câble, c'est l'ADN. Mais l'épigénétique, c'est l'isolant qui est autour, c'est la gaine de caoutchouc qui peut donner aux gènes une configuration de type ouverte ou fermée, qui lui permet de s'exprimer ou de se taire. Donc c'est ces modifications-là qu'on appelle l'épigénétique, c'est le fait que je peux tordre le fil, et ça va finir par empêcher l'expression, couper par exemple. Et les hormones, par exemple, modifient la structure de la chromatine. L'hormone sexuelle, par exemple.
D'accord, parce que moi j'entendais l'épigénétisme, quelque chose qu'on appelle plutôt les facteurs extérieurs au corps, plutôt que...
Ce qu'on appelle l'épigénétique, nous, c'est toutes les modifications de la chromatine, c'est-à-dire la gaine, ce machin-là, qui vont donner aux gènes une configuration de type ouverte ou fermée, sans une expression du gène, une configuration de type expressive ou non expressive, sans modification de la structure primaire du gène, sans modification de la chaîne de nucléotides.
Ça disparaît en 2 ou 3 générations.
Oui, ça s'efface. Il y en a qui se transmettent. L'épigénétique peut se transmettre. Je vous renvoie aux grandes études, parce que la seule épigénétique qu'on fait aujourd'hui, c'est l'épigénétique de population, puisqu'on ne peut pas tester, vous le savez bien, le cerveau. On peut faire l'épigénétique sur une tumeur, sur du tissu gras, mais on ne peut pas tester les hypothèses épigénétiques qu'on a envie de tester, parce qu'on ne va pas faire des biopsies de cerveau pour tester des hypothèses épigénétiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la limite de l'étude épigénétique dans la pédopsychiatrie, en psy, c'est l'absence d'accessibilité au matériel dont disposent par ailleurs les oncologues, par exemple, qui font de l'épigénétique des tumeurs, ou les gens qui font, vous savez, maigreur et obésité. Là, ils font l'épigénétique sur le gras. Mais nous, on ne peut pas aller vers biopsier du cerveau. On ne va pas le faire. Donc toutes les hypothèses restent à l'état d'hypothèse parce qu'on ne peut pas les tester. Et en sciences expérimentales, il faut pouvoir faire des tests pour confirmer ou infirmer. Donc les seules façons qu'on a d'aborder les choses, ça va être l'imagerie qui va sûrement faire des progrès. Et pour le moment, c'est essentiellement les statistiques. Mais on a des modèles murins aussi, où on voit bien que l'effet des hormones modifie l'expression des gènes. Progestérone, versus testostérone. Mais tout ça, c'est des modèles animaux, murins en particulier, qui ne sont pas pertinents pour l'homme. Donc on reste avec la séduction, pour vous comme pour moi, des scénarios épigénétiques, avec l'incapacité, l'impuissance à tester nos hypothèses.
Monsieur Gaillet.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Moi, je travaille depuis 35 ans dans les hôpitaux de jour, donc j'ai pu suivre un peu l'évolution autour de cette question-là. Et je trouve que vous êtes arrivé dans les hôpitaux de jour à un moment charnière de leur évolution, à savoir aux alentours des années 98, c'est-à-dire au moment de la refonte de la sécurité sociale, au moment effectivement de la nomination des ARS, et surtout au moment d'une nomination qui a été ce moment essentiel où l'autisme a basculé du côté du handicap, du fait de Simone Veil. Et ça, ça a été effectivement un effet de nomination qui a généré un bouleversement dans le travail des équipes et qui a peut-être ouvert effectivement un positionnement autre par rapport aux questions du corps. Voilà, tout ça pour souligner peut-être l'effet parfois disruptif de la nomination et de son effet signifiant. Mais moi, je connais vos travaux, je vous ai vu arriver avec ces questions concernant l'hyperactivité, la question des X fragiles, et c'est vrai qu'à cette époque-là, lorsque vous êtes arrivé, ça a généré dans les équipes tout un tas de, de, recherche où les gens se prenaient un peu pour gagner Spurzheim, à chercher un petit peu les morphotypes et autres. Bon, voilà pour les bouleversements. Mais voilà, j'entends, moi qui suis de l'autre côté, clinicien, les enfants témoigner effectivement de l'effet diagnostique sur eux. J'ai pu déjà vous en parler.
Bien sûr.
Et j'en ai un dernièrement, une maman qui disait qu'elle venait chercher son bilan générique. Donc elle l'a rencontré il y a de ça 15 jours. J'ai aussi le souvenir d'une petite fille qui arrive et qui dit « Le professeur, il m'a dit que j'avais rien dans la tête. » Pour une petite fille qui était prise dans le discours des parents qui rabattaient sa problématique du côté d'un échec scolaire. Et puis ce dernier qui vous a dit « Docteur, ma maladie, elle n'est pas dans mon corps. » C'est un verset biblique, ça. « Elle n'est pas dans mon corps, mais elle est dans ma tête. » Il s'est jeté sur sa mère. Vous veniez de dire qu'il y avait un problème de sang mêlé, de consanguinité. Lui, c'est sa problématique, il s'en mêlait. Sans mêler, ils vous ont fait la démonstration et vous intervenez effectivement pour couper. Bon, voilà, c'est des exemples dans la psychose qui sont très intéressants de l'effet de nomination.
C'était pas à Axo qu'on s'était vu ?
C'est bien à Axo, puis au CERF.
Quand vous dites disruptif, moi j'entends quelque chose de plutôt péjoratif.
Non, pas forcément, mais de violent, enfin, de générateur, effectivement, de la question de la faute, de la.
Comme une effraction. C'est une effraction.
Ça peut.
Une effraction pour qui ? Pour les soignants ? Ben, pour
parfois, il y avait une maman, lorsque vous nous avez invité à Imagine, dans le cadre de l'élan retrouvé, qui témoignait parmi les quatre, il y en avait une.
Ah oui, au séminaire. Oui.
Ouais, qui disait combien, effectivement, ça l'avait empêché de rêver, d'y croire, de fantasmer, de porter son enfant, et qu'il y avait une rupture. Vous souvenez ?
Très bien. Sur la méthode, ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant, on ne vient que si on est invité à venir dans une institution et individuellement dans une famille. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réunion préalable avant les consultations où on informe, et comme j'ai fait à Axo, comme je l'ai fait au CEREP, du temps de Jacques Lénard. Donc on va d'abord sur site, on expose, on propose, et les familles disposent. Il y en a un certain nombre qui refusent. On a eu des refus. Donc aussi bien c'est une équipe de soignants, d'éducateurs, des psys, des infirmières, des infirmiers, des médecins, qui acceptent ou qui déclinent l'offre, qui demandent, qui demandent parce qu'il faut faire la démarche. Aussi bien une famille peut accepter ou refuser de voir une consultation. C'est en aucune manière une obligation. Et je vous rappelle que la méthode, c'est qu'il faut s'adresser à l'élan retrouvé, à Moïse Assouline, pour ne pas le nommer, qui est directeur médical du programme, et qui inscrit les établissements les uns après les autres, par ordre chronologique, en fonction de leur essence d'une demande. Et moi, je peux tout à fait entendre qu'il n'y ait pas cette demande.
C'est un fait d'expérience clinique qu'il n'y a pas toujours cette demande. Y compris lorsque on la suscite, on la travaille, on finit par obtenir un accord de principe, on fait une lettre, on prend contact, et puis le rendez-vous n'est pas pris, et puis 3 mois après on se renseigne, on relance, et 6 mois
on se rend... Quand on voit le balade à l'hôpital.
Oui.
Mais là, quand on se déplace, je trouve que le mode d'intervention, c'est comme tout à l'heure au travail de Béatrice, c'est un mode d'intervention qui est très original. Comme une psy dans une possession, c'est très original. Une équipe médicale, une équipe qui se déplace, c'est très original. Mais c'est pas la même chose que d'accueillir un enfant à la consultation. Ça n'a rien à voir. Le môme, il est dans son environnement habituel, avec les éducateurs, les soignants, dans sa chambre, etc. Il n'est pas dépaysé, quoi. L'attente n'est pas intolérable. Il sent qu'il se passe quelque chose. En tout cas, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus détendu pour tout le monde qu'une consultation hospitalière.
mais là où je voulais mettre le doigt, c'est sur les résistances qui peuvent exister, ou le non-désir qui peut exister d'un diagnostic génétique dans certaines familles.
L'exemple, c'est exactement ça. Ou l'ambivalence, ou la nouveauté.
À la fois elle demande, elle ne demande pas.
Oui, c'est de ma part. Voilà. Mais ce sont des gens qui ont fait le déplacement déjà.
Ils ont fait le déplacement, mais finalement, au moment de demander, ils reculent et ils disent que ça va être possible et que ça va être compliqué de faire les analyses. Ce qui est quand même bien.
Marc, deux marches tout à l'heure.
Est-ce que tu as suivi? Les deux marches. Oui, mais. Pardon. Merci à tous les deux pour vos exposés. Extrêmement apaisants quant à la façon dont vous vous répartissez vos domaines de tous les deux, d'un côté, ouf, un effet de soulagement, de raison et de bon sens. Donc déjà, merci pour ça. Et puis, j'ai une question à vous poser sur l'épigénèse psychique, familiale. Au fond, je me demandais quelle était la différence entre ce type de maladie quand même globalement somatique, au niveau de l'impact familial, avec la folie. Parce que nous avons surtout dans notre pratique affaire à, pas uniquement, mais il est fréquent dans notre pratique que nous avons affaire à des proches de malades mentaux et qui souvent recourent à la psychanalyse en le sachant ou non, pour supporter ça, pour supporter l'insupportable. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est de votre pratique, qu'est-ce que vous avez appris et que vous pourriez nous transmettre sur la façon dont les famille que vous recevez supporte l'insupportable, parce qu'il faut quand même dire que c'est insupportable.
Une très bonne question d'ailleurs.
La passer à ma collègue.
Merci. Je crois qu'on a donné quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si on supporte. Je ne sais pas si c'est vraiment très supportable. Je pense que dans ces histoires-là, tout le monde trinque. Le couple trinque, on en a parlé un peu tout à l'heure. Toute la famille, c'est-à-dire la fratrie, moi je m'intéresse particulièrement beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement recevoir dans le format, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas tellement recevoir les frères et sœurs. Mais Arnold en a dit deux mots, c'est vrai que... Ça m'amuse, enfin c'est à peu près sans surprise, c'est pas vrai, c'est pas sans surprise, mais c'est comme très souvent que les frères et sœurs de ces patients très malades travaillent dans le soin, quel que soit ce type de soin. C'est presque tout le temps, c'est-à-dire des orthophonistes, des psys, évidemment des médecins, des kinés. Tout le monde récupère ça d'une autre façon. En essayant, de gérer peut-être aussi cette culpabilité d'enfant pas malade et de celui qui finalement a échappé au pire. Parce que il y a quand même tellement de cas où finalement on n'arrive pas à dire ce qu'il en est. Et quand même, je ne sais pas quelle est la on a cette information de maladie de nouveau. Plus que de maladies transmises.
Je te l'ai dit tout à l'heure. 70%. Quand on trouve, c'est 70.
Non, mais des nouveaux ?
Oui, 70, 15, 15.
Voilà. Donc, c'est quand même... qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans une famille, c'est le coup de pas de bol et aussi, voilà. Donc, est-ce que c'est une façon pour les frères et sœurs de gérer leur culpabilité ? Peut-être, je ne sais pas. C'est possible, mais probablement pas seulement.
Non, mais c'est intéressant comme point. Quand tu peux dire à un frère ou une sœur que c'est un accident.
Que c'est un accident.
Je crois que c'est.
Oui, que c'est un accident. Non, mais c'est vrai que c'est
la même dimension.
Oui.
C'est une forme récessive.
qu'une forme récessive, où du coup il y a des pourcentages, il y a des statistiques, et le récessif, ça peut être aussi le bas de bol à tous les coups aussi. Voilà. Donc ça peut être à chaque fois. Donc par rapport à votre question, il y a aussi la question du couple, moi, que je trouve assez intéressante, parce que c'est vrai qu'on a constaté comme ça, mais un peu intuitivement, sans compter évidemment et sans faire de stats, que les couples résistaient mal à un enfant malade et résistaient mieux à un enfant qui disparaissait. C'est quand même assez... Je ne sais pas si vous, dans vos cliniques respectives, vous l'avez constaté, mais c'est vrai qu'on a le biais de recrutement des enfants malades, donc on voit beaucoup de familles, et il y a quand même beaucoup de couples... On a quand même, je sais pas si c'est un pourcentage plus significatif que dans la population générale, mais je crois quand même, beaucoup de couples séparés. Il y aura probablement une étude à faire, mais je sais pas si ça répond, Marc, à votre question, en partie peut-être. Tu veux ajouter des choses?
Moi, je crois que je voudrais juste ajouter qu'ils ont vraiment besoin de parler, ces frères et ces sœurs. Ils ne le font pas spontanément, il faut aller les chercher, il faut susciter ce dialogue, il faut leur proposer d'être présents à la consultation plutôt que d'apprendre par des on-dit ce qui s'y est dit. Donc on les invite à venir nous rejoindre activement. On les invite, mais bien, dites à votre fils ou votre fille de venir, venez. Et là, quand c'est ça, c'est une ouverture parce que Béa peut apprendre, elle va prendre la balle au bon. Et initier ou déléguer ou initier elle-même une action qui est salvatrice. Elle a sauvé un nombre de frères et sœurs incalculables en leur donnant un espace, temps et l'écoute. Vous n'avez même jamais osé formuler. Votre question, c'est extrêmement
important. Excusez-moi, vous poussez à la limite ma question. Comment est-ce que vous recevez les gens pour lesquels ça reste radicalement intolérable? Donc, version du cadre dont vous avez parlé, Béatrice, de cette femme que vous disiez ambivalente, qui en fait a soupé de son nom.
Voilà, c'est ça.
Et quelle est la question du coup?
Comment est-ce que vous recevez ça? Est-ce que vous les encouragez à le garder quand même?
Ben en même temps, je ne sais pas quelle est la solution, mais de toutes les façons, cet enfant vient en institution. Donc, ce n'est pas un enfant qui vit avec elle. Non, mais cette femme, elle est dévastée par ce qui lui est arrivé. Elle l'a dit clairement, c'est-à-dire qu'elle a dit à la fois, j'aimerais bien que vous me disiez... Parce que quand elle dit, en fait, j'aimerais bien que vous me donniez... Je voudrais qu'on relance les recherches. Donc, professeur Munich, je vous attends hein, depuis très très longtemps, et j'aimerais bien relancer les recherches. Mais en fait, elle dit, je voudrais le pronostic. C'est-à-dire que... Bon, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes. Mais voilà. Donc, c'est un vœu de mort même pas voilé, quoi. Donc, elle le dit, elle rend d'ailleurs très vite impossible lors de cette première consultation qui dure, je ne sais pas, 1h45. Parce qu'elle s'effondre, parce que l'enfant est... C'est vraiment une consultation extrêmement compliquée, parce que... Elle a fait le tour de France, véritablement. Elle a changé de ville, je crois même, plusieurs fois pour relancer les recherches. Elle est même allée en Belgique, elle est allée, je ne sais plus dans quel autre, je ne sais pas si elle n'est pas passée par l'Allemagne. Enfin, elle a eu un parcours qui ressemble un peu à une errance, parce que c'est vrai qu'à la fin, quand elle revient en France et qu'elle revient à Paris, voilà, elle demande cette recherche, mais on entend bien qu'en fait, elle aimerait bien qu'on lui dise quand est-ce que ça va s'arrêter, son calvaire. Sauf que même s'il est très malade, personne ne peut, et certainement pas Anneker, personne ne va lui dire il va mourir dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 3 ans. On n'en sait rien en fait. Et tant mieux qu'on ne le sache pas. Parce que de toute façon, on a passé toute puissance à dire à un patient et à une famille. Ça me fait penser en fait à votre question, ça me fait penser à une femme qui était. Ça me fait penser à deux histoires où une femme était arrivée avec un tout petit enfant, un peu dans le même genre de situation. Je ne sais pas si ça a à voir en fait, mais bon, peu importe, je le dis quand même. Et cet enfant, elle a quitté la consultation, et elle a envoyé un mail Arnold Munich le lendemain en disant le pronostic, franchement, était, je crois que c'était une mitochondriopathie, le pronostic était vraiment, je pense, je ne sais pas s'il est encore vivant cet enfant, un petit garçon très 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 malade. Et le fait même que, on accepte de enfin, que l'équipe accepte de reprendre les recherches, d'entendre où c'en était, parce que la seule parole qu'elle avait eue au départ, le pédiatre à la maternité avait dit « c'est un vrai tableau noir ». C'est quand même sympa comme parole quand un enfant arrive. Et quand elle a vu le petit garçon, je pense, avait presque 2 ans, elle a écrit un mail le lendemain, elle a dit, c'est vrai que ça ressemble un peu à une phrase de film, mais bon, peu importe, elle a dit, ce premier jour est le premier jour du reste de ma vie.
Un titre de film.
Un titre de film, c'est ça ?
Oui.
Bon. De livre ? Ouais.
Non, de
livre.
De film.
Bon, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est vrai que c'était l'idée qu'il y avait là un marqueur, un passage, où on allait peut-être pouvoir reprendre, peut-être nommer, peut-être... Mais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ce sera, si c'est nommé, et cette femme finalement dont on parlait tout à l'heure, qui est venue avec cet enfant très malade, c'est vrai qu'elle aurait bien aimé qu'on la débarrasse. Enfin bon.
Non mais c'est ça qui veut dire, monsieur Strauss. C'est ça qui veut dire. Absolument, on a tous entendu.
Mais on a, alors.
Absolument, vous avez parfaitement compris.
L'intérêt, c'est pour ça que j'avais appelé cette vignette la double promesse, parce que à la fois on a pu entendre sa demande. Rendu immédiatement impossible, parce qu'à la fois, elle la donne et la reprend. Elle la donne en leur disant « s'il vous plaît, faites le nécessaire ». On complète comme on voudra la fin de la phrase. Et en même temps, elle dit « c'est pas possible ». Et puis finalement, dans son mouvement comme ça de va-et-vient, elle va le faire, parce qu'elle va ramener le père. Un an après, le père vient à la consultation. Et il débarque, il dit « mais de quoi il... enfin, et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et finalement, il va y avoir un début d'enquête génétique. Mais voilà.
Oui, Dominique Alice, vous savez.
Oui, en vous écoutant et avec les vignettes que vous donnez, je me demande comment est-ce que vous gérez dans les consultations le fait que les parents parlent devant l'enfant. C'est-à-dire que les enfants sont toujours là.
Alors, les enfants ne sont pas toujours là, mais c'est vrai que ça dépend un peu du type de consultation, c'est-à-dire est-ce que c'est une première consultation, est-ce que c'est... Alors, la consultation dont j'ai parlé, bien sûr, l'enfant était là, ce qui est très compliqué, hein. Bien sûr, ce qui est très compliqué. D'ailleurs, on va avoir... Non, Hugo, le petit garçon. Oui, l'enfant était là. Le très grand prima, oui, l'enfant était là. Et c'est vrai qu'on essaye, et je pense que le fait qu'il y ait des psys dans les consultations, qu'on essaye quand même de toujours attirer l'attention des médecins sur le fait qu'il y a quand même un enfant qui est là. Et que ce soit pour un rendu diagnostique ou pour des questions qui sont posées sur l'état de santé, sur l'évolution, etc., on peut s'adresser directement à l'enfant. Et on peut aussi, à la fin de la consultation, parce que du fait que c'est des enfants qui sont parfois extrêmement agités, si on parle des enfants, des troubles du développement, disons, des troubles, comme on dit aujourd'hui, c'est des TED, là. Des fois, je dis à Arnold, mais peut-être qu'on peut s'adresser direct, parce que c'est vrai qu'il est très agité, donc c'est compliqué, même physiquement, parce qu'il n'arrête pas de faire des allers-retours entre la porte et le bureau, etc. Et des fois, on essaye de l'attraper, de demander à la mère de le canaliser, ou des parents, enfin bref, à celui qui est là, et de s'adresser directement à lui. Mais parfois, c'est pas très possible. On essaye. Alors, quand la mère balance ce qu'elle a balancé, là, à propos de cet enfant très malade, c'est difficile de... Enfin, je ne sais pas si c'est difficile de l'arrêter, mais c'est compliqué. Parce que c'est aussi ça, c'est aussi ce désordre et cette désorganisation qui est aussi symptomatique dans la consultation. Donc on fait aussi un peu comme on peut. Et parfois on ne peut pas bien, mais on... Et c'est vrai qu'on a cette attention aux enfants qui sont dans la consultation. On demande aux médecins de s'adresser à eux. Et moi, j'ai en tête, en vous racontant ça, particulièrement une histoire où c'était un enfant autiste dont on n'avait jamais entendu le son de la voix, vraiment jamais, mais assez grand, hein, 10-12 ans, qui était très agité comme ça, et qui savait qu'il se passait quelque chose. Et le professeur Munich a rendu un diagnostic. Il s'est arrêté à 5 mètres, c'est-à-dire devant la porte. Il est revenu vers le médecin, vers les consultants. Il a posé la main sur l'épaule de sa mère. Il lui a dit, on n'avait jamais entendu le son de sa voix. Hein. Il a dit, mais maman, qu'est-ce que j'ai? Et franchement, j'ai pas souvent les larmes aux yeux en consultation, mais c'était quand même un moment où on s'est dit, mais en fait, voilà, c'est un peu pas.
On dit quoi ?
Oui, il y a du sujet, mais c'est vrai que des fois, la massivité des symptômes et du corps malade sidère un peu tout le monde. Hein.
Françoise Gorod.
Oui, question de la plaque. Ah, est-ce qu'il y a quelque part le moindre espoir de thérapie? Pardon pour la question.
Thérapie quoi?
Génique.
Génique, je ne sais pas, mais il y a aujourd'hui les premiers essais cliniques fondés sur le mécanisme de la maladie, sur la mutation en cause. Les mutations de la voie pétaine, mTOR, c'est des voies qu'on appelle actionnables dans notre actionnaire. Parce que les immunologistes ont passé avant nous et ils ont innové des médicaments qui peuvent activer ou inhiber des voies pétaines et mTOR, qui est un des gènes, une voie qui est impliquée dans l'organisme. Là, il y a des raisons sensées d'imaginer qu'il y aura des essais cliniques. Mais ce ne sera pas de la thérapie génique, ce sera fondé sur les mécanismes mis en compte. Donc les gènes, ce n'est pas seulement une délivrance pour nos parents, mais c'est aussi des ouvertures pour les chercheurs, puisque c'est là qu'on peut aller chercher, dans les médicaments existants, le repositionnement de médicaments existants, des ripostes thérapeutiques. Il y en aura un par un, au bout à bout. Je vous ai dit tout à l'heure, chaque enfant est unique, ce sera un, puis un, puis un, puis un. Ce sera des unités. C'est ça que je trouve fabuleux dans ce travail, c'est le côté ontologiquement très fort de l'unicité du vivant et de l'unicité du corps malade. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça continue de me bouleverser. Il n'y a pas deux enfants qui ont la même chose, même si leurs symptômes sont communs, les maladies qu'on identifie sont différentes.
Merci beaucoup.
J'avais deux choses à dire. La première, c'est qu'on peut continuer cette discussion autour d'un pot dans la salle à côté. Et je voudrais vous lire un petit paragraphe de Lacan sur les quatre concepts fondamentaux qui va faire tilt. L'important n'est pas que l'inconscient détermine la névrose, il nous parle de la névrose. Là-dessus, Freud a très volontiers le geste pilatique de se laver les mains. Un jour ou l'autre, on trouvera peut-être quelque chose de déterminant humoral, peu importe, génétique. Ça lui est égal, car l'inconscient nous montre la veillance par où la névrose se raccorde à un réel, réel qui peut, lui, n'être pas déterminé. Hein, on rejoint Borges. Voilà. Donc, je vous invite à passer.